Salut la compagnie, re-re-bienvenue à Comme nous autres, le balado qui rapproche. Les invités qu'on a eus aujourd'hui sont des invités qui étaient déjà pas mal proches, mais attention, vous ne vous approchez pas trop car elles sont farouches. Vous avez bien compris. On a reçu Emna Achour et Coralie Laperrière qui sont amies dans la vie et avec qui on s'est posé la question, mais comment se faire des amis au Québec? Parce que pour vrai, on aimerait vraiment savoir. Et puis surtout, comment les garder.
Oui, moi aussi, j'aimerais ça le savoir. Anyway, on a vraiment passé un super bon moment avec elles. Leur complicité est ressortie dès le début. Vous allez voir qu'elles ont été super généreuses, pertinentes, comme on s'y attendait. Donc, on aurait jasé toute la journée avec Coralie et Emna. Donc, bonne écoute. Manon, pèse sur record.
Bonjour.
Bienvenue à cet épisode de Comme nous autres, épisode sur l'amitié. Amélie, bonjour.
Allô, salut Manu.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va. On tourne en ce moment en début de février. Puis j'avoue que j'ai pas hâte de voir mon teint. Après ça, j'ai comme l'impression que je suis en train de
parler
à vue d'œil. Mais vous écoutez ça lorsque le printemps arrive et semble-t-il qu'il sera plus tôt parce que la marmotte. Vous avez vu cette histoire-là, la marmotte?
Tu déjà senti... Elle a vu son...
Ouais, c'était hier? Ah! Oui. Vous n'avez pas vu Fred la marmotte?
Non.
Oui, printemps actif, à ce qu'on dit. Alors, j'espère qu'elle avait raison.
Bah, écoute, on y croit après ce qu'il en
fait. Ça fait une semaine qu'il fait moins 60.
Ouais, c'est ça.
Fait que... Oui, et c'est pas prévu que ça s'arrête la semaine prochaine, mais... Ça dépend ce que ça veut dire actif.
Heureusement qu'on a un thème qui va nous donner le sourire. On va parler d'amitié avec... est-ce qu'on vous appelle les farouches ou par vos noms?
Sinon, d'où?
Alors, Emna Achour et Coralie Laperrière, oui. Je peux présenter Emna.
Alors, allô Emna.
Allô.
Donc, Emna, ancienne chroniqueuse sportive, humoriste, mais beaucoup d'autres cordes à ton arc, auteur, autrice. Ça, on a eu le débat.
Ah, oh, j'aime bien autrice, oui.
Autrice.
J'aime bien qu'on entende.
Je suis de cette école-là aussi.
Ouais.
bienvenue à notre balado aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta présentation?
Alex Galchenyuk.
Oui, c'est ça. OK, toi, tu lis mes statuts Facebook. Mais oui, non, c'est ça. Journaliste de hockey, principalement pendant 10 ans, tannée du Boys Club. Terminé dans un autre Boys Club, celui de l'humour, mais mieux outillé.
Coralie Laperrière est diplômée de l'École nationale de l'humour.
Yes.
Nash, est-ce que ça donne un statut particulier vis-à-vis Emna dans votre relation?
Ah oui.
Absolument pas, je pense. À part, je chiale plus souvent sur l'école. Puis,
oui, elle a plus de
temps. D'accord, oui, c'est ça.
OK. Fait que tu te permets parce que tu as vécu...
Oui, j'ai vécu l'intérieur de la bête.
OK. Puis maintenant, j'imagine que ça te sert quand même pour ton... Tu as des contrats de chroniqueuse, autrice aussi, scénariste, je pense.
Oui.
J'avais vu que tu avais participé à des scénarios, donc beaucoup de cordes à vos arcs.
Yes.
C'est la première fois que je dis ça au
pluriel. Au pluriel, oui. On met nos arcs ensemble.
C'est
ça. Ça tire plus sur le Boys Club.
Ouais. Amélie, est-ce qu'on pourrait décrire Emna et Coralie de personnes engagées?
Oui.
Oui, assurément.
Mon Dieu, c'est rare qu'on se fait donner cette étiquette-là.
Moi, on m'a déjà dit engageante.
Ah, j'aime ça.
C'est comme qu'on fait de l'humour engageant parce que c'était plus engageant pour la personne qui consommait.
Ben ouais.
Humour,
tu parlais de mettre vos deux arcs ensemble. Ben, ça permet aussi aux autres d'arquer en même temps, je dirais. Ouais, j'aime ça.
D'où c'est né, ça, cet engagement-là? Est-ce que ça a toujours fait partie de vous ou c'est comme quelque chose qui a grandi au fil des années?
Ah mon Dieu, moi, c'est depuis que je suis vraiment enfant là, que je suis... Moi, je suis née gauchiste, on dirait, là, genre vraiment de comme dans la petite pouponnière et j'avais déjà envie de... Non, mais pour vrai, j'ai été genre présidente de classe en deuxième année du primaire.
Ouais.
Puis après ça, j'ai tout le temps voulu comme... J'ai tout le temps été intéressée à ça. J'écoutais Infoman avec mes parents quand j'étais petite. J'aimais beaucoup l'humour engagé aussi. Dans les années 2000, il y avait beaucoup plus d'humour engagé que maintenant, j'ai l'impression. Ou en tout cas, d'humour politique dans les médias. Fait que moi, j'ai comme toujours consommé ça beaucoup. Fait que, et l'humour et l'engagement, ça a tout le temps été comme une seule et même affaire pour moi. Là. Fait que, ouais, moi, j'ai grandi dans l'engagement et je suis militante depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Fait que... Ça va faire 15 ans cette année que je milite, pas à temps plein, là, mais que je suis pas mal... que je dis pas mal mon opinion tout le temps puis que j'ai une grande gueule que je ferme pas. C'est
la deuxième année.
Même oui, jeune. Exact.
Ouais, moi, pas du tout. Moi, c'est arrivé sur le tard dans ma vie. J'étais pas féministe, j'étais pas... Ben, j'étais pas antiraciste, en tout cas. J'avais pas le vocabulaire à l'époque. J'étais pas informée sur ces sujets-là. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais journaliste de hockey puis que je subissais du sexisme puis du racisme puis tout ça, puis je le savais pas. J'étais comme, je dois juste être moins bonne que tout le monde, tu sais. Puis là, la grève étudiante est arrivée, on en parlait hors d'onde en 2012. Puis là, j'ai fait comme... OK, s'engager dans la politique. Fait que là, ça a comme un peu fait mon éducation de base sur la politique québécoise. Puis après ça, c'est ça. J'étais pas féministe nécessairement quand j'étais journaliste de hockey, mais dès que je le suis devenue, j'ai lâché le journalisme. Parce que là, c'était comme, tu sais, les lunettes roses partent au vent. Puis là, j'étais comme, OK, j'étais pas bonne. Je suis juste une femme dans un milieu d'hommes, tu sais, qui se fait remettre en question constamment. Puis ça, fait que quand j'ai commencé à lire sur le sujet puis à m'informer, là, c'était comme, tu sais, once you see it, you can never unsee it. Mm-hmm.
Ouais. Mais est-ce que tu penses que ton ouverture, justement, a pas permis le fait que tu continues? Est-ce que t'aurais pas voulu, justement, dans ce milieu-là, essayer de faire bouger les choses? Mais si t'étais seule parmi beaucoup, c'est
oui,
difficile.
Ben, exact. Puis, tu sais, c'était beaucoup de violence. Puis, j'étais comme en burn-out, là, quand je suis partie. Okay. J'en pouvais plus. Mais j'étais comme, maintenant que je sais tout ça, je vais continuer ce combat ailleurs. Fait que c'est vraiment, j'étais comme, là, je vais arriver dans mon prochain milieu. Je savais pas encore ça allait être quoi. Mais j'étais comme, là, je vais plus jamais utiliser ma tribune pour parler de buts puis de rondelles. Tu sais, je vais parler...
À mon grand désarroi, oui, je dois le dire, là, honnêtement. On en parle aussi hors d'onde, mais c'est pas grave.
Ben, tu sais, des fois, je me demande, tu sais, je suis comme, hey, si la Emna d'aujourd'hui était journaliste, elle serait une maudite bonne journaliste, oui. Parce que là, j'aurais vraiment comme encore plus de niveau, tu sais, à mon analyse sportive, mm-hmm. parce que tout est politique, n'est-ce pas? Même le sport, surtout le sport. C'était trop toxique, là, j'en pouvais plus du tout. Fait que je suis rentrée dans un autre milieu toxique, puis là, j'étais comme, OK, là, ils ont Emna 2.0. Bonne chance, tout le monde.
OK. Puis Coralie, juste revenir, tu avais parlé de spécifier la gauche.
Ouais.
Quoi de la gauche? Qu'est-ce que tu as cerné en premier de la gauche pour affirmer que c'est vraiment ça, comme dès le début, tu te considérais comme
une gauchiste? Ah, ben moi, c'est vraiment la justice sociale, là, dans le fond. Là. C'est vraiment l'idée de base que, comme, hey, tous les humains devraient avoir un toit, tous les humains devraient manger.
On dit woke!
Oui, je sais, c'est ça. Tous les humains devraient avoir le respect, tu sais. Puis c'est quand j'ai réalisé que j'étais comme, à toutes les fois que l'argent rentre là-dedans, ça se peut pas, tu sais. Puis, tu sais, fut un temps où la droite, c'était pas raciste, transphobe et tout ce que c'est en ce moment, puis que la droite, c'était un peu genre, « Ah non, mais tu sais, le marché, la main invisible du marché va finir, que tout va s'arranger, tu sais. » Puis il y avait une espèce de pensée là, mais même moi, celle-là, j'y croyais pas. Fait que, dans le temps, je comprenais, à la limite, les gens de droite de penser naïvement que ça se pouvait, mais que j'étais quand même comme... franchement de gauche, puis la grève aussi, moi aussi, en 2012. Okay. Moi, c'est en 2011 que j'ai commencé à militer. J'étais plus indépendantiste à ce moment-là, puis finalement, je suis partie parce que j'ai réalisé qu'ils étaient tous racistes, mais...
On vise personne.
On vise personne, mais... puis après ça, en 2012, on peut parler de gratuité scolaire, fait que j'étais comme, ben ça, c'est une des affaires qui devrait être gratuite. Fait que la gratuité, beaucoup de choses ont commencé à être dans mon cerveau, puis j'ai commencé à développer cette pensée-là plus critique. Après ça, tout le monde se faisait battre par la police. Je me suis fait battre par la police. Je suis devenue plus anarchiste. Je suis rendue plus radicale. Après ça, crise climatique. J'ai été sensibilisée sur l'environnement. J'ai commencé à travailler à Greenpeace. Je suis devenue encore plus écologiste. Fait qu'on dirait que tout ça, à chaque fois que je découvrais une nouvelle crise, j'étais comme, la seule solution, c'est la gauche. Comme il n'y a pas d'autre façon d'amener ça. Puis on dirait que ça m'a juste, c'est ça, campé dans mes idées depuis. Et je suis maintenant une petite gauchiste radicale. Et fière de le dire.
Une grande, comme un 5 pieds 9.
Oui, c'est un 5 pieds 10, c'est vrai.
5 pieds 10, OK.
Oui,
c'est ça.
Quand même.
100 mètres, c'est un mètre...
Ben, 1m78, c'est à peu près ça.
Oui, okay. C'est ça.
Grande gauchiste, donc,
oui, c'est
ou radical.
Ouais, exact.
C'est un bon
titre. Moi, j'adore le dire, ouais.
Mais est-ce qu'on serait rendu pour une petite bine à questions, Amélie? Je pense que c'était pas mal dans le sujet. Vous devinez que, il faut piger.
Oui, c'est excitant.
Alors là, il va falloir choisir comme on fait une question.
Ouais.
Tu me laisses y aller.
Non, je sais que t'adores.
Ton privilège blanc.
La main est
oui, c'est ça. Mais c'est parce que Emna adore jouer à la boulette.
Je sais
qu'elle est appelée par un petit bout de papier dans un bas.
Si on avait su, on aurait fait des boulettes.
OK, je vous fais deviner la question. OK, je me lance.
Vas-y.
Attends, veux-tu faire du ASMR?
C'est bon, ça. On n'a pas pensé à ça. Hein, c'est une bonne idée. On garde ça.
Tu gardes tes grands ongles.
Alors, OK. C'est would you rather, comme tu préfères ça ou ça. Rapetisser de 1 cm à chaque fois qu'on vous qualifie de woke.
Tout part de plus loin. On en parlait juste avant.
Oui, c'est ça.
Ça a une chance d'être une grande radicale.
Ou que le podcast Farouche ne soit écouté que par des complotistes.
C'est un passé, c'est bien.
Rapetisser de 1 cm. Moi, c'est parce que c'est ça. Là, je suis déjà pas très grande.
Oui, c'est ça.
C'est drôle, on parlait de
ça. Oui, ça c'était vraiment bien. Non, mais c'est parce qu'on se fait tellement traiter de woke que, ouais, genre, on disparaîtrait. Plus, ouais.
Ça serait maman, j'ai rapetissé les enfants. Ou chérie, j'ai rapetissé les enfants.
Chérie, j'ai rapetissé les woke.
Ouais, c'est ça. C'est
bon. Fait que, ouais, je pense qu'il faudrait que ça soit.
Juste des complotistes.
Juste des complotistes. Ben, tu sais.
Ben, après ça, est-ce que nous ne sommes pas un peu tous complotistes?
Oui. Mais moi, Britney, j'y croyais.
Préciser, là.
Non, mais
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Est-ce qu'on...
On est tous pas loin.
On est tous pas loin d'un certain complot. Tu sais, comme je dis souvent, les complotistes sont genre, le gouvernement nous ment. Ouais!
Oui.
Les médias nous mentent. Ouais!
D'accord.
Les vaccins, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas là qu'il faut aller. Okay. Tu sais, fait qu'il faut comme...
Mais les compagnies pharmaceutiques profitent du système. Oui!
Ils
sont tout le temps... Pas loin.
C'est ça, la fameuse chambre d'écho, hein, qu'on...
Oui.
C'est ça, ça nous ramène à ça. Je pense qu'on veut entendre...
Mm-hmm.
On entend ce qu'on veut bien entendre.
Exact. Okay. Ouais, en parlant à des complotistes, on sortirait un petit peu de notre chambre d'écho, parce qu'en ce moment, les gens qui écoutent Farouche sont pas très de droite, mettons.
Non.
Ils trouveraient le temps long s'ils étaient de droite. C'est pas notre public cible, mais en même temps, on parle de plein de sujets qui les concernent aussi.
L'idée, c'est de se demander, est-ce qu'on peut pas non plus faire évoluer des gens qui ont pas les mêmes idées que nous?
Oui, peut-être. Écoute, oui.
S'ils
sont ouverts d'esprit. On a dit peut-être des complotistes, peut-être qu'ils sont...
Ben, sauf s'ils pensent que vous faites partie du complot, là. Ça...
Ouais, c'est ça. On est
ça peut devenir compliqué.
World gauchiste.
C'est ça.
C'est quoi les plus gros complots? Ben genre la 5G dans le vaccin.
Oui.
Mais ouais. Je m'envoie.
Ben écoute, l'environnement.
Ah oui, l'environnement, oui, c'est vrai.
C'est un complot.
C'est vrai. On pourrait leur expliquer que, ben non, c'est pas.
C'est
pas parce qu'il fait très froid qu'on n'est pas en crise climatique.
Ouais, ben. Ah non?
Non.
Non, je suis pas capable. J'allais.
Ah, t'as essayé, c'est dur.
Toi, Coralie, est-ce que tu as la même réponse que je te lance?
Après ça, je prendrais un petit. 5 cm de moins, ouais. Des fois.
Ah ouais?
Ouais, mais tu sais, ça sera pas un. Tu sais, on traite de woke 5 fois par jour minimum. Fait que c'est ça. Fait que moi aussi, ça serait les complotistes. Mais les complotistes, je les aime un peu. Mais pas je les aime, mais je suis comme, il y a quelque chose dans leur envie de combattre que je respecte quand
ouais,
même.
Ouais, on se rejoint là-dessus.
Ouais, on se rejoint là-dessus. Puis des fois, de plus en plus, depuis la pandémie, il y a des nouvelles. Et des nouveaux combats où je croise des complotistes dans la rue maintenant. Et eux, ils sont encore contre le gouvernement, mais en même temps, on est tous contre le gouvernement. Fait que maintenant, on se rejoint un peu. Fait que moi, je pense que je dirais...
Ennemi commun, puis...
Ouais, exact. Il y en a qui comprennent des affaires par rapport à comme qu'est-ce qui se passe, puis ah, OK, il faut qu'on combatte ça collectivement.
Mm.
Je pense, par exemple, au combat contre Stablex, là, à Blainville,
oui.
Que là, il y a des gens qui sont comme, hey, là, les complotistes adorent ça, parce que c'est Bill Gates qui empoisonne la population. Fait que là, ils sont comme, oh my God, j'avais raison tout ce temps-là, puis
ils sont pas loin
de la vérité. Fait que ils sont maintenant dans la rue, ces gens-là. Fait que moi, je dirais les complotistes, mais pouvoir les amener du bon côté de la force.
OK. Ouais. Vous les considérez comme vos amis, mais genre circonstanciels.
Donc, des potentiels alliés. Plus que des amis.
Ah,
ouais. Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas eux qu'on sur lesquels on fesse le plus dans notre podcast.
Non,
en fait, on fesse pas du tout sur eux.
Non, c'est ça. C'est pas mes ennemis.
Ouais, ils font mal à personne, genre.
Ouais, ben, à part ceux qui sont comme... vraiment raciste, là, mais sinon, ceux qui sont juste un petit peu perdus, c'est pas mes ennemis principaux. Il y en a que je comprends quand même d'où ça vient.
OK. Vous parliez d'allier tout ça. C'est un peu ça le thème du podcast.
Oui.
Hein, qui n'en a pas besoin, des amis, des alliés, surtout en ce moment? C'est pas mal ce qui nous diffère des autres animaux aussi. Là, de la fameuse marmotte du printemps ou des écureuils. Qui ont mangé mon bac à compost.
C'est un fléau.
Ça mange du plastique maintenant.
Mais oui, paraît-il. J'ai mis de la cannelle partout. Ouais, ça a
la cannelle, ça marche?
Visiblement, non. Je pensais, je sais pas. J'avais mis ça sur TikTok.
Fait que oui, amitié, Amélie.
Ouais, ben c'est ça, on est des êtres sociaux. Une fois qu'on a défini ça, c'est intéressant. Mais des amis, sans faire dans un contexte multiculturel, qu'est-ce que ça dit? C'est ça qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui dans le podcast.
D'où est née votre amitié? Où est-ce que ça a commencé pour vous?
Ben moi, je me rappelle la première fois qu'on s'est écrit. T'en rappelles-tu, toi?
Non. T'as un souvenir, je pense?
Oui. C'est moi, j'avais parti pas longtemps après mon arrivée dans le milieu de l'humour. Moi, je suis arrivée en 2019, puis Coralie était déjà humoriste, avait déjà fait l'école. Puis j'avais parti une soirée d'humour qui s'appelait Les Allumetières, qui était une soirée avec des femmes, une soirée open mic avec des femmes, des personnes de la diversité de genre. Puis j'approchais des femmes humoristes pour les inviter à venir à ma soirée. Puis je pense même que c'est Coralie qui nous avait écrit, parce qu'elle avait entendu parler de notre soirée. Puis nous, notre fonctionnement, c'est qu'on demandait, on voulait comme une soirée safer space. Fait qu'on voulait pas de propos racistes, grossophobes, évidemment sexistes sur la scène. Fait qu'on l'écrivait aux humoristes qui voulaient venir. T'es sûre que t'as du contenu comme ça? Est-ce que tu serais ouverte à ce qu'on discute de ton contenu si jamais t'es pas sûre de ça? J'avais écrit ça à Coralie, donc pas de racisme, pas d'homophobie, pas de tu sais, je sais pas, transphobie, tout ça. Puis elle était comme, moi, je suis pas très phobe, je suis plus iste. Puis elle était comme écologiste, féministe, non, toutes les mois. Puis j'avais fait comme, ah, elle est cool. Yes. Puis là, elle était venue aux Allumetières, puis c'est la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était comme ça. Puis après ça, on n'est pas mille, hein, des humoristes gauchistes, non. Féministes, écologistes, tout en iste. Uh-huh. Fait qu'on a trauma bond ensemble.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, moi, je me rappelle d'un moment donné, on a juste... Je sais plus de quoi on voulait parler, d'un projet. Je savais même pas avant Farouche. J'étais proto-Farouche, je pense. Puis j'étais venue chez toi, puis on avait juste... Je me rappelle qu'il était comme, moi, je bois pas beaucoup, mais tu veux-tu du vin? Puis on a juste fini la bouteille de vin en bitchant le milieu pendant comme 3 heures.
Je me rappelle pas de ça.
On n'a pas les mêmes souvenirs du début de notre amitié. Puis, mais genre, parce que c'était aussi la pandémie. Fait qu'il y a des moments où on se voyait pas tant que ça. Mais quand on s'est vus, on a commencé à comme builder notre amitié, puis on habitait pas loin aussi dans ce moment-là.
Ouais,
fait que...
C'est vrai. Ouais.
Puis Farouche l'a accéléré, je pense aussi. On était même pas... on n'était pas amis comme on l'est maintenant.
Non, c'est vrai.
Avant Farouche. Le Farouche nous a vraiment comme... tu sais, a scindé, tu sais, comme a vraiment bétonisé notre amitié, puis...
Mais c'est vrai, moi, tu sais, on se connaissait comme c'est ça, de loin, mais on se voyait souvent, de temps en temps, puis on n'était pas invités souvent sur les mêmes spectacles non plus.
Non,
c'est parce que there can only be one gauchiste.
Il y a juste une fille, par
une fille, une gauchiste en plus. Mais je me souviens, tu sais, d'avoir eu vraiment envie de faire un podcast un jour, puis de m'être dit, il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais le faire. J'étais comme, il faut que je le fasse avec elle, sinon je le ferais pas, tu sais. Puis là, on s'en était parlé. Puis c'est ça, comme elle dit, Farouche, c'est un super beau projet. C'est notre petit bébé, mais c'est aussi... occupe 90% de nos conversations tout le temps. Ça, fait que, ça fait qu'on se parle beaucoup souvent.
Puis aussi, on a fait potuer sur le pacing ensemble. Ouais. C'est une page Instagram pour dénoncer l'invisibilisation des femmes en humour. Puis ça, c'est un peu avant Farouche, mais déjà, on était comme... On est comme vraiment parti au combat ensemble. Là. Puis c'est, je pense que je trouve beau de l'engagement. Puis en tant que militante aussi, en tant que militante, t'as pas le choix de faire confiance aux gens. T'es comme, on est dans un combat, on est dans marde, tu veux rentrer, parfait, rentre dans le bateau, puis on y va, tu sais. Puis je pense que ça a vraiment fait ça avec Emelan. T'es comme, OK, les deux, on veut combattre ça. On est les deux seuls qui sont game de faire ça. Ben, go! Puis on a juste foncé dans le tas. Puis je pense que c'est aussi ça qui a comme forgé notre amitié, de juste se faire confiance en mode, regarde, on se connaît, mais pas... Tant que ça, on n'était pas autant amis, mais on a juste foncé là-dedans. Puis, veux pas, quand t'apprends... Après ça, on avait des entrevues ensemble avec les médias. On a reçu de la boîte de tout notre milieu ensemble. Fait que je pense qu'on a vraiment... on s'est vraiment construit dans le trauma. genre, l'affrontement dans les tranchées, ouais, genre, ça. De l'humour. Puis ça a vraiment comme forgé notre amitié.
Ouais. Dis-t-elle en riant.
Ouais, c'est ça.
C'est pas la... Ça va très bien.
Ouais, c'est pas c'est un appel à l'aide.
Non, maintenant, ça va.
Ouais, aujourd'hui, okay. Ça va.
Fait que là, vous avez parlé justement que Farouche, vous avez lié, mais j'imagine quand même que ça peut avoir un impact sur votre amitié, justement, qui n'est pas seulement positif. Est-ce que, tu sais, parler de... Est-ce que des fois, vous vous dites, bon, ben comment on peut se retrouver en tant qu'amis quand notre vie professionnelle en fait partie intégrante? Tu sais, comment vous fonctionnez pour garder un lien hors profession?
Ben on essaye, ouais. On essaye de se dire, mettons, OK, là, on va se faire un... On va aller dans un café, on va aller bruncher, on va aller souper, puis en amis. Mais inévitablement, après 15 minutes, on est comme « Ouais, puis là, j'ai pensé à ça pour Farouche. »
Mais c'est aussi le contraire qui arrive. Des fois, il faut qu'on se parle pour Farouche.
Puis on
finit par parler de plein d'autres affaires. Mais ouais, comme, OK, vrai. Là, ça fait. Je pense qu'une des personnes à qui je parle le plus longtemps au téléphone, c'est Emma. Ouais. Là, des fois, je fais OK, Emma, ça fait deux heures qu'on se parle au téléphone. Ouais.
En 2026, parler au téléphone, c'est longtemps, c'est un exploit quand même. Mais.
Puis on est comme, ah non, faut revenir à dessus, tu sais, puis on... des fois, on va comme partir, puis on est comme, attends, là, faut vraiment finir ce sujet-là, parce que sinon, on n'aura pas travaillé, puis là, on finit, puis après, ça...
Mais je pense aussi que Farouche, ça marcherait pas si on n'avait pas cette complicité-là, tu sais, je pense que les gens, ils l'entendent, le voient, que c'est pas difficile pour nous de comme, tu sais, même, tu sais, oui, on prépare l'épisode, puis on a des mots d'écrit, puis tout ça, mais... On a de la répartie, puis on a des insides ensemble, puis on, tu sais, ça se voit là, qu'il y a une fluidité grâce à notre amitié dans Farouche.
OK. Puis vous aviez mentionné le tantôt quand vous avez grandi, bien, toi, c'est l'humour qui est de par l'École nationale de l'humour. Toi, l'humour est arrivé un petit peu plus tard. Nous, on a un podcast qui parle de l'immigration interculturelle, justement. On voudrait vous amener un petit peu dans ce sujet-là, bien sûr. Comment est-ce que vous l'abordez, ce sujet-là, principalement dans vos, dans votre contenu? Comment est-ce... Parce que vous avez une relation qui est interculturelle. Vous, ben, premièrement, on peut commencer par vous deux. C'est quoi, quelle place elle occupe, cette dimension-là, dans votre relation amicale?
C'est intéressant.
Ben, Emna, je chiale tout le temps sur les femmes blanches, puis j'en suis pas, j'en fais partie.
Puis elle me dit jamais « not all femmes blanches ».
Ouais, c'est ça, je pense. Je pense que c'est d'accueillir ses critiques sans tout prendre personnel.
Ouais. Ben, c'est... Tu sais, moi, plus je vieillis, plus, tu sais, je pense qu'on fait tout ça un peu, là. Je trie les gens à qui je fais confiance, puis c'est quoi mon entourage proche, puis c'est avec qui que je me lie vraiment, puis que je veux bâtir quelque chose pour le futur et tout. Puis plus je vieillis, puis plus je me rends compte que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai grandi dans des milieux très blancs. Toute ma vie, j'ai souvent été la seule femme maghrébine de mon cercle d'amis, de ma job, de mon entourage, de tout ça, de mon travail, c'est ça. Fait que là, maintenant, j'ai plus de... Je suis plus méfiante, je suis plus difficile dans mes choix parce que j'ai vécu beaucoup de violence comme plein de personnes issues de l'immigration. Fait que, tu sais... Sans dire que Coralie était en évaluation quand on s'est rencontrés, ben tu sais, même inconsciemment, tu sais, je avant de faire confiance, je veux écouter, je veux savoir, tu sais, puis ce qui aide, je savais que Coralie avait d'autres amis qui étaient pas blanches, ce qui est souvent le fun de pas être la première amie pas blanche, tu sais, dans un, tu sais, toi, t'as grandi dans des milieux super multiculturels, tu sais, je pense même plus que moi.
ouais, ben vraiment, là, moi j'ai été au contraire souvent la seule blanche de mes amis.
Wow, non, ça m'est jamais arrivé. mais oui, fait que, tu sais, je le sais quand je peux parler de ces sujets-là avec Coralie. Je sais que j'ai pas besoin de code switch avec Coralie. Ouais, je sais que je peux chialer sur les femmes blanches en toute. Puis les hommes blancs aussi, là, en toute quiétude.
Ouais, puis je pense que ça a vraiment aidé aussi de. Je sais pas, je pense que. En tout cas, moi, je suis vraiment. J'ai été quand même ouverte, là, de. Ben, pas ouverte, mais de, tu sais. Ça a toujours été naturel pour moi là, de comme outrepasser même les... Tu sais, de pas... J'ai toujours compris que le racisme, ça existait. J'ai toujours compris que la suprématie blanche, ça existait. J'ai toujours, tu sais, comme ça... Ça n'a pas été nouveau. J'ai jamais pris personnel. J'ai jamais eu de... Ben, sûrement que j'ai déjà eu de la fragilité blanche parce que je suis pas immunisée à ça. Mais j'ai toujours compris ces concepts-là puis j'ai jamais voulu les mettre de l'avant. Quand je réalisais que... « Ah, t'es-tu en train de penser que t'es plus intelligente que ce que les gens te disent en ce moment? » Ben, j'essaie de comme éteindre cette voix-là puis d'écouter vraiment ce que j'en dis. Puis je pense que ça m'a aidé dans toutes mes relations aussi qui sont, qu'on pourrait dire, interculturelles. Là. Mais tu sais, souvent, tu sais, quand j'ai plein d'amis de différentes origines, de différentes cultures, puis comme moi, pour moi, c'est super important aussi. Moi, je trouve que c'est un red flag quand quelqu'un a juste des amis blancs aussi. Comme pourquoi
à Montréal,
quand il y en a tellement, c'est comme, est-ce que t'es pas allé vers l'autre? Est-ce que, tu sais, pour moi, ça a toujours été important aussi de... Tu sais, moi, toute ma vie aussi, je suis tout le temps allée vers les personnes qui étaient tout seules, mettons, à l'école. Tu sais, les personnes à qui on parlait moins, ça arrivait souvent que c'était des personnes ici de l'immigration. Fait que ça fait que je me suis toujours liée d'amitié avec ces gens... Avec ces gens-là, j'aime pas ça.
Avec nous autres.
Oui, mais avec tout le monde qui était outsider un peu. Là, j'étais aussi amie avec toutes les personnes queer, les personnes de théâtre, les personnes weird. Comme... fait que j'ai toujours préféré les personnes outsider parce que je me sens moi-même outsider. Fait que pour moi, c'est comme juste naturel d'avoir des amitiés avec des gens qui font pas partie de la grosse affaire qui est comme normal, le gros bloc un peu monolithique de la société. Là. J'ai jamais voulu être dans ce bloc-là. J'ai toujours voulu être à part de ça. Mais je pense que ça a aidé aussi toutes mes amitiés.
Ouais, ouais. Puis de, c'est ça, de pas avoir... Tu sais, après ça, on peut tous tout le temps s'améliorer puis apprendre puis évoluer, mais de savoir que j'ai pas besoin de, d'éduquer, tu sais, mon ami, puis de... Ouais, comme non, ça a pas de bon sens que t'as dit ça, ça me cause du tort, ça me fait mal, à, ça me fait de la peine, c'est ça, j'ai pas besoin de le faire. Puis aussi, Coralie, tu sais, attends, là, je te lance des fleurs en te disant que Coralie n'attend pas qu'on lui lance des fleurs non plus, de genre, ah, t'es tellement une bonne alliée, t'es tellement une bonne personne blanche, tu sais, comme, c'est ça, très auto, elle s'autogère. C'est ça que je recherche, c'est ça.
Bravo. Mais oui, non, c'est super intéressant, mais justement, tu disais, moi, j'ai toujours été amenée à aller vers des personnes qui sont différentes. Ben, toi aussi, mais différentes de toi, finalement.
Ouais.
Parce que, donc, ben, ça fait la même chose parce que probablement aussi que tu étais dans une volonté d'intégration au corps, peut-être, même si tu es née au Québec.
Moi, je sais pas, des fois, je me suis demandé comment ça se fait. Ben, en fait, dans les amitiés, je pense que c'est vraiment un cas de. Ben, dans tout, dans les amours aussi, mais un cas de vraiment de la démographie autour de moi. Tu sais, ouais, j'étais vraiment. Tu sais, j'ai déménagé à. Je le dis pas très fort d'habitude, mais je vous le dis à vous, à Laval, quand j'avais 6 ans. Puis j'ai grandi à Laval, mais le Laval des années 90, fait que le Laval qui était pas du tout multiculturel, ouais. C'était très, très, très blanc à l'époque. Fait que, tu sais, ça faisait que j'avais des amis là, qui étaient des personnes issues de l'immigration aussi, mais principalement, mon entourage, c'est blanc. Après ça, j'ai étudié en journalisme. Tout le monde était blanc. Ouais. Journaliste de hockey, tout le monde était blanc. Humoriste, tout le monde était blanc. Tu sais, comme c'était beaucoup... Fait que, tu sais, même en amour, j'ai que daté des personnes blanches, tu sais. C'est parce que j'ai pas eu accès à...
Ouais.
Mais après ça, c'est-tu comme un racisme internalisé de ma part, de vouloir fit in? Mais je pense aussi que ça, c'est la socialisation, puis c'est comment...
Ben, c'est ça.
C'est ça.
C'est avec ce qu'il y a autour.
Exact.
Ben, les codes culturels aussi, là, tu sais, Emna, c'est la personne que je connais qui connaît le plus la culture québécoise dans mon entourage, là. Tu sais, comme, comparé, mettons, mon chum, qui est un Québécois de descendance canadienne-française, ben, tu sais, lui... Il vient d'Outremont, fait qu'il connaît vraiment pas la culture québécoise tant que
c'est
ça.
Pas ouvrière, mais tu sais, plus...
Lui, bourgeois.
Populaire.
Fait que aussi, je pense que ça doit aider quand tes codes culturels sont, je veux dire, tu tripes sa fureur puis Radio Enfer, là, comme ces gens.
Okay.
Fait que ça fait quand même, je pense que ça, comparé à certaines personnes qui, peut-être, ont moins ces codes-là culturels ou qui ont grandi plus dans des... Dans des communautés qui étaient pas fermées, mais qui étaient juste comme moins intéressées à ce qui se passait au Québec aussi. Là, je pense que ça doit quand même... je veux dire, t'aimes ça, parler du Québec aussi, je pense.
Oui, oui, ben tu sais, c'est... Tu sais, moi, quand je vais en Tunisie, tu sais, de mon pays d'origine, où est-ce que j'ai jamais vécu, tu sais, je suis née au Québec, je suis la Québécoise, tu sais, la Canadienne. Puis quand je suis ici, quand tu m'entends parler, OK, je suis la Québécoise. Quand je suis avec Coralie, je suis la Québécoise, mais quand je... Je sais pas, j'ouvre la télé puis que les personnes qui me ressemblent se font diaboliser constamment. Je fais comme, OK, finalement, je suis la Tunisienne, je suis... Tu sais, où est-ce que... Fait que oui, moi, ça... Puis je sais pas, après, les autres familles, tu sais, je peux pas parler pour eux autres, mais mettons des gens, comme tu dis, qui auraient peut-être le même background que moi, mais qui connaîtraient beaucoup moins la culture québécoise. Je pense qu'il y a une question de survie, des fois, de pas vouloir oublier d'où on vient, tout ça. Tu sais, ça dépend. Chaque parent... Tu sais, moi, mes parents, ils écoutaient les gars-là juste pour rire avec Yvon Deschamps, puis ils mettaient la fureur le vendredi soir. Fait que, tu sais, j'ai suivi. Puis ça a donné une journaliste de hockey qui est maintenant humoriste, tu sais. Fait que... Mais oui, ça dépend de... Il y a toutes sortes de facteurs, mais mes parents, ils ont choisi cette voie-là, puis ça a donné ce que c'est.
Je fais du pouce là-dessus, Emna, parce qu'on voulait vous poser la question. Répondez comme vous voulez, avec l'angle que vous voulez, mais selon vous, qu'est-ce qui, je vais utiliser le terme « nuit », qu'est-ce qui peut nuire à, justement, des relations amicales entre personnes immigrantes puis personnes natives d'ici? Selon vous, selon vos expériences, selon votre vécu, qu'est-ce qui manquerait pour que ça se fasse mieux?
Oh mon Dieu, ben la suprématie blanche.
Ouais.
Comme en général, là, mais tu sais, je pense l'ego, la fragilité blanche, là, qu'on appelle aussi, là, fait que de penser que, oh mon Dieu, mais je suis tellement désolée de ce que vous avez vécu sans se mettre aussi en position.
J'allais te demander de le définir tantôt. Ouais, ben c'est ça. Vas-y, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui.
Ouais, c'est ça. Ben la fragilité blanche, ben, en tout cas, moi, comment je la décrirais un peu, c'est quand. Ça peut être de plein de façons différentes, mais c'est, mettons, se dire « Ouais, mais c'est pas moi qui étais un colonisateur, c'était mes ancêtres. Fait que pourquoi les gens sont fâchés contre moi? Moi, j'ai pas besoin de me rentrer là-dedans. » C'est de pas, des fois, c'est se retirer de l'histoire aussi, de pas réaliser qu'on fait partie encore des oppresseurs, qu'on fait encore partie de l'oppression, mais de se dire « Oh, mais moi, ma petite réalité peut pas vraiment affecter les personnes non-blanches. » T'sais, fait que je pense que ça, c'est une affaire d'ego, c'est une affaire de fragilité, de pas avoir confiance en soi, de pas s'intégrer dans l'histoire aussi. Je pense surtout... tu sais, mettons, aux États-Unis, on va voir cette fragilité blanche-là, surtout avec les personnes noires, avec, par rapport à l'esclavage. Ici, je trouve que ben, y a eu avec les personnes immigrantes, mais beaucoup avec les personnes autochtones aussi. Oui. Comme quoi, oh mon Dieu, mais c'est dans le temps, la colonisation, c'est pas comme si c'est encore en train d'arriver, alors que c'est en train d'arriver, comment qu'on se place dans cette histoire-là.
Ne pas reconnaître son privilège, en fait. On ne demande pas de s'excuser pour tout ce qui est arrivé, mais de juste reconnaître que on part pas au même stade. Ouais. Moi, je pars avec 3 prises contre moi tout le temps.
Tu l'as senti, tu les as senties, les 3 prises, dans ta vie, souvent? Je pose la question naïvement, je sais c'est quoi la réponse, mais...
Ben oui, tu sais, c'est jamais... En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été frontal. C'était tout le temps insidieux. Fait que c'est dur à définir, c'est facile à gaslighter aussi quand on n'est pas capable de dire non, mais ça... Tu sais, moi, on m'a jamais... Ben, en tout cas, sans savoir... Tu sais, j'ai pas... Regardez-moi, là, les gens qui nous écoutent à la maison, là, comme j'ai l'air de pas venir de Mascouche, mais en même temps, on sait pas trop je viens d'où. Parce que mon nom, c'est pas genre Fatima Mohamed, mettons. Là. C'est comme plus... C'est rare qu'on devine que je suis arabe du premier coup, que je suis maghrébine. Puis là, c'est comme ça amène toute une autre affaire de... Je pense qu'il y a plus de racisme envers... Bien, il y a plus de racisme. On hiérarchira pas les hiérarchies.
Hiérarchiser. En tout cas, au futur 5, j'avoue que c'est pas fréquent.
On va pas hiérarchiser les racistes, mais je veux dire, post-11 septembre, il y a eu quand même un petit pic islamophobe et arabophobe, j'ai envie de dire. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça, le fait que j'ai un peu l'air latina, peut-être indienne, on sait pas trop, j'ai pas vécu certaines affaires que, mettons, si je portais un voile ou que si je m'appelais vraiment comme Fatima Mohamed, mettons que c'était plus clair, que j'aurais vécu. Puis encore là, j'étais tout le temps dans des milieux blancs aussi. Mais oui, ce qui peut nuire aussi, je pense, aux amitiés, c'est ça. Tu l'as couvert beaucoup, là, mais le manque d'empathie aussi, le manque de curiosité. Moi, je pense que c'est une des choses qui m'a fait le plus de peine dans mes amours et dans mes amitiés. C'est « Ah non, mais maintenant, toi, t'es comme nous autres. » Mais non, oui, mais non. J'aimerais ça que tu reconnaisses que je suis pas exactement comme vous autres, que tu n'essaies pas de m'effacer, que tu n'essaies pas de m'assimiler, que oui, on a plein de points en commun, puis c'est pour ça qu'on est amis, mais ça veut pas dire, tu sais, que tu comprennes aussi ma réalité, tu sais, de je vais vouloir passer plus de temps avec ma famille parce qu'on est plus fusionnels, je vais jamais arriver les mains vides à quelque part parce que ça se fait pas arriver avec pas de nourriture chez quelqu'un, tu sais, comme je vais enlever mes souliers avant de rentrer chez vous parce que c'est weird en esti si tu gardes tes souliers selon moi, tu sais, mais. Ça, après ça, on a convenu que c'était un truc. C'était quand même rare.
Ouais.
C'était quand même rare au Québec.
L'avantage de l'hiver au Québec, c'est que t'enlèves tes chaussures quand
même. Mais oui, tu sais, fait que c'est intéressant que le podcast s'appelle Comme nous autres parce que, of course, comme moi, j'ai toujours voulu appartenir, mais j'ai toujours voulu qu'on soit conscient aussi du fait que, j'étais pas 100% comme vous autres, puis c'est correct, tu sais.
Ouais. Mais il y a aussi, je pense, l'intérêt à la politique internationale aussi, je pense, qui est comme importante, de juste parce que si tu veux rencontrer des personnes issues de l'immigration ou différentes cultures, il faut au moins que tu saches un petit peu leur background. Tu sais, quelqu'un qui arrive et qui est comme « Parle-moi de ton pays, c'est où ça, l'Haïti? » Tu sais, comme, t'as l'air épais un peu. Fait que de juste avoir une connaissance sur le monde qui est, mettons, par exemple, au sujet de la Palestine, par exemple, moi, ça fait depuis 2012 que je m'intéresse à la Palestine. Fait que quand c'est arrivé, le 6 octobre 2023, j'avais déjà les outils pour comprendre c'est quoi. Puis, mettons, Emna était super touchée par ça, parce que c'est normal, parce que t'as toute une communauté qui font comme « Hey, c'est des gens qui me ressemblent, qui sont en train de mourir sur les bombes. » Ça m'affecte. Fait que, tu sais, de faire « Oh, ben moi, je comprends pas ça, puis je m'intéresse pas à ça », ben ça montre une espèce d'insensibilité, alors que si tu t'intéresses à ce genre de catastrophe humanitaire là, puis tu fais juste comme penser plus loin que le Québec ou que les États-Unis ou la France, en tout cas, tu montres aussi une certaine curiosité puis une empathie, je pense, qui est importante dans les amitiés, puis de pas juste faire comme je m'intéresse juste à mon petit bout de pays puis mon petit bout de sur la planète, mais je réalise qu'il y a comme quelque chose de plus grand, puis je réalise aussi que juste, mettons, mon intérêt, tu sais, j'ai une curiosité assez naturelle pour, tu sais, la politique internationale ou comme pour toutes les cultures, mais ça fait en sorte que quand, mettons, je rencontre quelqu'un qui n'est pas une personne blanche, qui n'est pas nécessairement de descendance canadienne-française, ben j'ai comme des points que je peux parler, tu sais, que je suis pas complètement genre « éduque-moi, s'il vous plaît », tu sais, je peux vraiment comme au moins partir la conversation. Puis je pense que ça aide aussi, là, les gens fassent comme « Ah, oh, OK, justement, j'ai pas besoin de tout lui expliquer, j'ai pas besoin de tout l'éduquer. » Elle a au moins une petite connaissance. Quand je dis le mot « colonisation », elle est pas comme « Hein, de quoi tu parles? » Fait que je pense que tout ça, c'est vraiment important pour juste pour si les gens nous écoutent et qu'ils veulent avoir des meilleures relations aussi avec des personnes non blanches, des personnes issues de l'immigration, c'est vraiment d'avoir juste un intérêt pour l'humain en général, puis ce qui se passe sur la planète en général.
C'est intéressant ce que tu dis, mais même des fois, sans que ce soit la politique pure et dure, ouais. ça peut être même dans des détails.
Oui.
Là, on parlait tout à l'heure du hockey, mais c'est sûr que quelqu'un qui vient de l'étranger puis qui va parler de hockey à une personne qui, mettons Manu, qui serait intéressée par ça, pareil, c'était... la Coupe d'Afrique, il n'y a pas longtemps. Enfin, moi, j'habite dans le petit Maghreb. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de bruit. Ouais. Puisque, comme, moi, j'étais au courant de ce qui se passait. Puis je ne me demandais pas pourquoi tout le monde sonne. c'est aussi avoir une ouverture sur même des fois des petits détails, des choses qui ouais. se passent ailleurs, comme on serait heureux de fêter des choses qui se passent ici. les gens, ça fait vraiment la différence. Ben, ça permet d'aller vers l'autre aussi.
Mais c'est un point de contact c'est super ouais. important. Là. Si on n'a pas ce point de contact-là, c'est là que c'est plus dur d'avoir des bases aussi là-dessus. Là. Puis c'est un peu absurde quand des fois, tu entends des discours là, par les grands médias, soit les grands médias de masse ou des politiciens qui vont dire « Non, mais là, les gens, ils viennent ici, puis ils ont pas de... On n'a pas de point commun dans la culture. » Tu sais, mettons, un chroniqueur que je ne nommerai pas, mettons, qui va être à Journal de Montréal, par exemple, va dire ça, genre « Ah non, mais quand c'est pas des chrétiens, ben là, on n'a pas de point commun. » Puis t'es comme « Mais si t'as pas de point commun avec d'autres êtres humains, c'est un problème. C'est ton problème. C'est pas le problème de ces gens-là. On a tous des points communs, ne serait-ce qu'aimer souper avec des amis, tu sais. » Fait qu'à m'amener d'avoir cet intérêt-là, je pense que c'est important aussi. Puis ça humanise aussi les gens, là. Je pense aussi qu'il y a quelque chose dans le privilège blanc qui fait en sorte qu'on fait comme... On n'a pas besoin d'humaniser les autres, genre. On n'a pas besoin de penser aux autres, puis on pense juste à d'autres personnes blanches. Puis à m'amener de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser, ça permet de réaliser que, OK, on est tous des êtres humains, on vit toutes des affaires différentes, puis ça nous ramène à ça, parce que sinon, pour vrai, là, c'est aussi... Il y a beaucoup de gens, je pense, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, on devient très, très, très individualiste. Ça devient facile de « Ah, si c'est pas la même réalité que la mienne, je l'ignore. » Puis de justement comme se forcer à être curieux, curieuse, puis d'aller vers l'autre, je pense que ça change vraiment tout là, dans toutes nos relations.
Cela dit, là, j'en ai peut-être déjà parlé avant, je m'excuse si je radote sur ce thème-là, mais c'est parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est pas mal à la base de tout. Oui, de tout, l'éducation. Moi, je suis allé au primaire, au public. Okay, donc, on est à Montréal, donc j'ai grandi dans Villeray, puis c'était très... Mais plusieurs cultures se côtoyaient, tout ça, mais je suis allé au secondaire, au privé. Et là, on était peut-être 90% de personnes blanches. Fait que, est-ce que ce serait pas aussi, justement... Moi, je sais que j'ai manqué d'opportunités. Je le sens vraiment, là, que j'ai manqué d'opportunités de créer des liens avec des personnes différentes. Je parle en termes
de toi,
de ouais. physionomie de moi. Puis on est à Montréal, fait que j'imagine même pas à l'extérieur de Montréal où, statistiquement, il y a beaucoup moins de... Fait que, est-ce que ce serait pas ça aussi? Il y aurait pas un manque d'occasion, tout simplement, de rencontre? Puis moi, le secondaire, tous mes amis que j'ai en ce moment... Ben, 80% de tous mes amis, c'est au secondaire que je me les ai fait.
Oui, bien, tu sais, c'est ça. On ne peut pas changer le background d'où on vient puis l'éducation qu'on a eue puis tout ça. Mais ce qu'on peut faire en tant qu'adulte with free will aujourd'hui, je pense, c'est, mettons, un peu analyser, un peu observer quel genre de musique on écoute, quel genre d'émission de télé on écoute, quel genre, c'est qui nos humoristes préférés, c'est qui nos auteuristes préférés. T'sais, si ça, c'est des hommes blancs, tout le long, là, ça forge un petit peu, justement, ta fermeture d'esprit. Ouais. Si vraiment t'es pas inclusive même dans l'art que tu consommes. Moi, je pense que ça passe beaucoup par l'art qu'on consomme.
Oui, mais j'y allais vraiment plus dans le sens de créer des liens, vraiment. Parce que oui, ça n'empêche pas d'être allumé, d'être au courant, mais de créer des liens, moi, je le sais que ça a vraiment nui à ça, simplement par manque d'opportunités.
Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a deux façons qu'on crée des liens, mettons, surtout à l'âge adulte. C'est soit l'éducation, prendre des cours ensemble, soit nos hobbies, puis soit notre travail. Mais quand, mettons, il y a ça dans le milieu de l'humour, il y a ça dans plein d'autres milieux, quand on travaille juste en personne blanche, comment tu veux rencontrer des nouvelles personnes? Puis ça, je pense qu'on a tout... En tout cas, au niveau du travail, c'est dur de tout changer tes liens, puis comme, OK, maintenant, je vais aller, prendre un cours de salsa en essayant de me faire des nouveaux amis. C'est peut-être pas ça qui va marcher.
C'est pas une réussite.
C'est ça, mais si, mettons, quelqu'un qui est au travail, moi, je pense qu'on a vraiment... On a les deux mains sur le volant. Là. Souvent, surtout quand les gens engagent une nouvelle personne, ben là, c'est super important de prendre des critères de diversité et inclusion, par exemple, puis de vraiment s'assurer de rentrer dans le milieu de travail des personnes non blanches. Puis je pense que ça, mettons, c'est une affaire qu'on devrait faire de plus... T'sais, on n'en parle même pas à quel point je pense que c'est important, tu sais, puis... Il y en a même des gens qui vont avoir des backlash, là, de, t'sais, comme moi, je connais quelqu'un qui a fait ces efforts-là dans son travail, puis après ça, les autres personnes blanches vont chialer en faisant « Ouais, mais là, ils ont un accent, donc là, des fois, ça fait que le zoom est plus long. » Ben le zoom sera plus long. Tu sais, comme, apprendre ça, mais à un moment donné, il faut comme forcer ces rencontres-là aussi, fait que, t'sais, même si elles sont pas naturelles, puis tu sais, nous, on l'a vécu dans le milieu de l'humour, de les gars, mettons, qui engageaient pas de femmes, étaient comme... Oui, mais il n'y en a pas de femmes. Non, tu n'es pas intéressé vers les femmes. Tu ne fais pas cet effort-là. Fait que oui, ça prend un effort, mais je pense que, mettons, surtout au niveau du travail, c'est un effort qui est vraiment facile à faire. Là. Nous, à notre podcast, justement, c'est vraiment un effort qu'on va faire. On va aller essayer d'aller prendre des personnes autochtones puis vraiment les trouver aussi, ces personnes-là, parce que des fois, elles sont pas évidentes, là, parce que les médias ne les mettent pas de l'avant. Mais là, il faut vraiment que tu fasses ce travail-là de « OK, comment je pourrais aller chercher des nouvelles personnes pour voir ça? » Fait que je pense aussi que oui, il y a l'affaire qu'on n'a pas pu créer des liens, mais maintenant, il faut aussi comme, OK, essayer de se forcer à les faire, ces liens-là, parce qu'il n'y a personne qui va les faire pour nous, tu sais. Mm-hmm. Mais le milieu militant ou le milieu communautaire ou le milieu de bénévolat, je pense que c'est une très bonne façon aussi de s'ouvrir sur les autres personnes en voulant s'impliquer, par exemple. Là, on finit par avoir des autres relations qu'on n'aurait pas eues nécessairement.
Oui, aller à des manifs organisés. Mais c'est ça, le militantisme en général, c'est pour ça que je dis aussi l'art, mais l'art dans le sens de hobby, dans le sens d'aller essayer des affaires qui sont hors de nos habitudes, qui sont portées par des personnes issues de l'immigration, bien, ça crée des liens automatiquement, tu sais, mais c'est sûr que si on va juste au match du Canadien tout le temps, ça va être... Puis pourtant, tu sais, il y a toute une génération... Tu sais, mon père, c'est un fan du Canadien avant que moi, je le sois, là, tu sais, fait qu'il y en a, il existe, ces personnes-là, mais oui, il y a des... Tu sais, les manifs pour la Palestine sont organisés par des personnes de la communauté, là, puis il y en a une à chaque semaine depuis le 7 octobre 2023, fait que c'est pas dur, tu sais, faut juste... C'est ça, sortir de chez soi, mais tu sais, moi, je le vois un peu comme un... Pas un red flag, mais tu sais, plus j'ai de la méfiance envers... Ben c'est ça, les gens qui n'ont pas parlé, mes amis, mettons, ou des personnes blanches dans mon entourage qui n'ont pas parlé de la Palestine depuis le début, parce que je le prends personnel. Je suis comme, si tu t'intéresses pas à la Palestine, ben ça veut dire que tu t'intéresses pas à moi. Parce que pour moi, on est la même... Ben évidemment que la Tunisie et la Palestine, c'est pas pareil, mais... C'est mes frères et sœurs.
T'es en train de dire que tout le monde est pareil?
Oui! on est tout le monde, on est comme nous autres. Non, mais pour dire, si tu t'intéresses pas aux enjeux les plus graves, ben là, tu t'intéresseras jamais à mes petits enjeux à moi de femme racisée au Québec. D'abord, c'est comme ça que je le vois, tu sais.
Mm-hmm. Est-ce que vous, vous avez beaucoup, justement, d'amis, alors là, il va falloir faire plus large, parce que d'amis qui sont issus de l'immigration et qui sont des personnes qui ont elles-mêmes immigré, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis arrivée au Québec à 30 ans. Fait que tu sais, j'avais déjà une culture toute faite, là. Mm. C'est différent, je pense, quand on est né au Québec, de parents qui ont une culture différente, parce que bah, du coup, on a comme des doubles codes, dans le sens où ça peut créer des chocs culturels aussi, ouais. Hein, quand on arrive assez tard au Québec. Mais je me demandais si vous aviez des amis, justement, qui sont issus d'immigration, qui ont immigré eux-mêmes à un âge adulte.
Ben, principalement des Français. Principalement des personnes françaises. C'est vrai que ben, Amel, notre amie oui. de l'Observatoire pour la justice migrante, est arrivée à, je pense, 26 ans au Québec, de la Tunisie aussi. Mais c'est vrai que
c'est
ça...
Manal est arrivée en jeune âge.
Ben, c'est ça. On a quand même plusieurs amis qui sont arrivés peut-être autour de l'âge de 10 ans. Mais à l'âge adulte, c'est vrai que là, tu sais, même nous, on parle, mais on parle un peu à travers notre chapeau, parce que nous aussi, on pourrait faire plus ces rencontres-là aussi, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'en fait, je pense qu'aussi, ce qui ressort beaucoup de nous, des personnes qu'on a l'occasion de voir dans notre travail, c'est que se faire des amis à l'âge adulte, en étant une personne immigrée, c'est difficile, parce qu'on n'a pas les codes dont on parlait, de se renseigner sur... Mais même si on se renseigne sur... On n'a pas les codes culturels. On est dans un apprentissage de ces codes culturels-là. Et en même temps, même 5 ans après, même 10 ans après, on peut avoir encore des chocs culturels. Les chocs culturels en amitié, c'est...
Mais moi, je pense que c'est une chance aussi. Puis peut-être que, tu sais, mettons, des personnes blanches n'ont pas accès à cette affaire-là. Mais moi, j'ai eu la chance, mettons, à l'âge adulte, de travailler, mettons, pour un organisme comme Pour 3 Points, qui, à l'époque,
on était majoritairement des personnes issues de l'immigration autour de la table, des personnes qui venaient d'arriver, des personnes qui étaient nées ici, un peu tout. Fait que j'ai rencontré pour la première fois à l'âge adulte, t'sais, des amis adultes immigrants. J'ai aussi fait beaucoup de projets, autant en tant qu'humoriste, mais en tant que simple citoyenne avec l'Institut du Nouveau Monde, que vous connaissez peut-être, oui. Qui est pour... comment je peux expliquer leur mission? On est pour appuyer un engagement citoyen auprès des personnes issues de différentes communautés. Fait que là aussi, là, j'étais la seule presque qui était née au Québec. Là. Tout le monde était arrivé beaucoup plus tard dans sa vie. Mais encore là, c'est des programmes pour personnes racisées. Fait que, mettons, Coralie pourrait pas se pointer demain matin là, mais elle pourrait, mais ça serait plus difficile. Ce genre de projet-là m'apporte, même moi, là, encore une fois, tu sais, puis ça, j'aime pas le dire parce que ça me blesse, ça me complexe peut-être, mais j'ai grandi très blanche, là, tu sais, de par mon entourage. À la maison, c'était très tunisien, mais dès que je sortais de la maison, ça l'était plus. Fait que j'ai des réflexes de personne blanche, j'ai envie de dire.
T'sais. Ça, parce que là, tu parles d'amener à la rencontre, de rencontrer ces gens-là, de créer du lien. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui sont tes amis aujourd'hui? C'est ça, comme la question ultime de se faire des connaissances, apprécier les gens, découvrir différentes cultures, oui.
Ouais.
Avoir des amis de longue date, de longue durée, qui ont une culture complètement différente de la nôtre, est-ce que ça fonctionne? Et sinon... Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne difficilement?
Ben moi, c'est mes milieux, c'est ça. C'est, c'est dans le sens, il y en avait pas d'autres journalistes de hockey qui étaient des, tu sais, quand même que j'aurais voulu, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Je pense mes amis arrivés adultes qui sont le plus proches de moi, c'est mes amies françaises. Mais encore là, tu sais, j'en ai une amie qui est ma plus proche, qui est française, camerounaise, fait que, tu sais, mais elle est là, grandie en France, elle est née au Cameroun, mais elle est née en France, tu sais. Puis c'est ça, après, mais je sais que, mettons, dans ce groupe-là d'amis françaises, ils sont beaucoup plus proches entre elles qu'ils le sont avec moi, qu'ils le sont avec d'autres Québécois, Québécoises. Parce que après ça, tu veux aussi trouver des liens avec des personnes qui ont le même background. Puis c'est normal, c'est aussi une question de survie, je pense. T'sais, comme j'ai une amie qui habite à Matane, qui me parle, qui est née à Matane, qui habite à Rimouski, qui est d'origine haïtienne, mais son père est haïtien, mais elle a jamais vécu avec lui, elle a jamais connu... Fait que c'est comme une femme noire à Matane et à Rimouski, c'est comme la seule, genre, que tout le monde... Puis en tout cas, puis elle me parlait des initiatives qu'il y avait, parce qu'il y avait de plus en plus d'immigrants, de personnes issues de l'immigration en région, puis elle était comme, il y a un monsieur qui a décidé d'ouvrir une épicerie avec comme tous les produits de tout plein de pays, parce qu'il était tanné de toujours devoir aller à Montréal pour acheter ses produits et tout ça. Puis ça fait que ça a créé, c'est comme une petite communauté et tout, tu sais, c'est... L'idéal, c'est la diversité des tactiques, c'est qu'il y ait des liens qui se créent avec des Québécois, Québécoises, mais aussi qui se sentent safe dans leur propre communauté aussi. L'idéal, c'est qu'il y ait les deux, pas juste un des deux, effectivement.
Moi, j'ai pas beaucoup d'amitié, mais j'ai des camarades au niveau militant que, tu sais, mettons, par exemple, avec l'abolition du programme du PEC, là, par exemple, d'expérience québécoise, bien là, j'ai fait des nouvelles rencontres, puis des nouveaux... parce que je parlais de ces sujets-là, fait que là, les gens, ils viennent m'écrire, puis là, j'entretiens des liens. On n'est pas comme encore allé prendre des bières ensemble puis développer une amitié, mais c'est quand même des liens que je trouve important de faire, puis que je pense que... Puis, plus ça va aller aussi, là, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, pour l'instant, on reste des humoristes autoproduites. Fait que, tu sais, veux pas, la majorité de mes rencontres, moi, c'est dans le cadre du travail parce que j'ai besoin de payer mon loyer puis j'ai besoin de continuer à travailler. Fait qu'on est un peu toujours en train de travailler, mais je suis aussi un peu toujours en train de militer. Puis je pense que plus ça va aller, plus je vais faire ces rencontres-là parce que j'en fais déjà. Puis... pour moi, la question de l'immigration avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est une question centrale, là. Ne serait-ce que dans l'avenir du Québec. Là. Je pense que l'avenir du Québec repose sur l'immigration, mais l'immigration est nécessaire à l'avenir du Québec. Puis si on veut comme un Québec fort, tu sais, comme j'aime pas dire ça, mais tu sais, si on veut comme que nos hôpitaux soient pas en ruine, puis que l'éducation soit pas en ruine, puis que l'économie soit pas en ruine, ben il va falloir de l'immigration. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis que je commence à avoir ces liens de camaraderie là avec des personnes issues de l'immigration pour combattre ça. Moi, je suis comme vraiment à ça de commencer à m'enchaîner sur un avion quand j'entends que comme il y a des gens qui vont devoir partir, ça me met hors de moi, tu sais. Fait que je pense que ces liens-là sont plus durs à faire, mais je pense que parce que aussi des personnes immigrantes, parce que si elles veulent combattre elles savent qu'elles ont qu'elles peuvent être renvoyées pour ces motifs-là aussi. Mm-hmm. Ça devient plus dur de faire cette lutte-là. Fait que pour moi, c'est super important de comme garder ces liens-là. Fait que c'est pas encore des liens d'amitié, mais c'est des liens de camaraderie qui se tissent au fil du temps et qui vont être, je pense, de plus en plus forts parce que on va lutter de plus en plus.
Ouais, puis on a moins le temps d'aller faire du bénévolat dans les organismes communautaires dans Parkex, ben mettons, mais on va inviter ces gens-là sur notre podcast. Mettons, ouais, c'est comme ça. Une façon qu'on, ouais, non, c'est... qu'on crée ces rencontres-là, ouais, aussi.
Ça minimise pas, en fait, hein, que ce de la camaraderie, comme tu le dis. Mais c'est juste, je m'intéressais à l'amitié parce que c'est vraiment un point qui est le point noir, en fait, finalement, des gens qui arrivent et qui disent « Ah, ça n'arrivera jamais, c'est difficile. » Mais effectivement, faire des liens, et tu parlais tout à l'heure d'humaniser la différence, ben ça aussi, c'est important. C'est, tu parlais de ce qui se passe aux États-Unis. Peut-être que si on humanisait plus la différence, on arriverait plus à être dans l'empathie, puis à relate ce qui se passe, puis à se dire, oh là, ça peut pas se passer.
Ouais, tu sais, c'est le fameux cliché de juste toujours se rappeler qu'on n'est pas, dans le sens, on n'a pas la belle vie qu'on a ici au Québec. Parce qu'on l'a mérité. On est juste chanceuse d'être née ici. C'est ça, ouais. Moi, c'est sûr que ça me fait encore plus mal de voir des gens qui ont exactement le même background ethnique que moi, puis qu'eux sont dans une tente, dans un camp de réfugiés, puis que moi, je suis ici. Je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai? Comment c'est possible? Mais oui, fait que si on ouvre un peu plus notre esprit et notre cœur et notre empathie, on peut plus faire des liens, effectivement.
Comment on fait pour disons, là, on est entre nous, on parlait de chambre d'écho, justement. Si vous aviez apporté ce message-là avec Farouche, par exemple, mais à des gens qui n'ont pas autant accès à cette réalité-là, qui sont malheureusement qui sont un peu victimes du message qui diabolise l'immigration, comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre? Parce que nous, c'est un peu ça notre but avec ce projet-là. Ouais. Comment on fait? C'est quoi le...
Moi, je demande à mes amis blancs de le faire.
Ah, okay. En toute, rejoindre les corails.
Ouais, c'est ça.
En toute amitié et bienveillance, j'ai essayé de le faire et de créer des ponts, la fameuse phrase « créer des ponts ».
Oui,
j'ai envie de brûler les ponts. Parce que moi, je suis fatiguée. Puis justement, je suis tannée de me faire diaboliser. Je suis tannée que mes semblables se fassent diaboliser. Fait que je me dis, hey, ça, si ça pouvait être votre combat... Ça m'aiderait, comme ça, moi, je pourrais comme me reposer des violences que je subis au quotidien. Fait que, tu sais, oui, c'est important de parler en dehors de nos chambres d'écho, mais je trouve qu'il n'y a pas assez un équilibre encore. Les gens dans ma chambre d'écho ne se sont pas fait parler assez encore. Je veux encore leur parler à eux autres. T'sais, moi, mon plus grand reward, c'est ma plus grande récompense quand je finis des shows, quand je finis Farouche, c'est quand des femmes maghrébines viennent me voir après les shows puis me disent « Merci, puis tu nous représentes bien, puis on est contentes d'avoir... » enfin, comme un miroir, une réflexion de nos réalités. Fait que je suis comme, ben moi, c'est ça. Moi, c'est à eux autres que j'ai envie de parler pour le moment. On m'a souvent dit au début de ma carrière, non, mais il faut que tu parles à Robert puis à Gilles. Puis à... Je suis comme, oui, mais Robert puis Gilles, ils ont des convictions politiques qui nuisent à des gens comme moi. Fait que je vais leur laisser lire des livres, parler entre blancs. Puis après ça, quand ils seront prêts à ouvrir leur cœur, ils viendront m'écouter, mais... Moi, je ne vais pas me mettre faire le tapis pour qu'eux autres m'acceptent. Je l'ai trop fait dans ma vie.
Mais ouais, moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité très blanche là, de s'ouvrir sur le monde. Puis de, tu sais, par exemple, les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'avoir plus de personnes. Puis, tu sais, de toucher plein de monde. Puis, l'art aussi, là, ça fait en sorte que, comme, ah, les gens connectent. Puis, ils vont peut-être, mettons, plus naturellement, entre guillemets, connecter avec ce que moi je fais, que Emna fait, juste à cause de ma couleur de peau. Mais c'est après ça, de moi, avec ce micro-là, de dire, hey, peut-être que tu as des affaires à régler, tu sais. Puis, je prends par exemple. Moi, j'ai toujours été un peu complexée, de même dans le militantisme, puis dans mon art, je fais. Pourquoi je parle juste à des Blancs? Moi, j'ai jamais voulu parler juste à des Blancs. Je trouve que c'est... s'il y a juste des Blancs dans mon public, je suis comme... Il y a quelque chose que j'ai manqué. Il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct. Je suis pas capable de sortir de ça. Puis, par exemple, quand il y a eu le meurtre de Nourane Rezaï par un policier de Longueuil, moi, j'ai fait des vidéos pour dénoncer ça. Puis, je l'ai bien vu qu'il n'y avait pas 1000 personnes blanches qui avaient fait ces vidéos-là. Et mes vidéos ont été vraiment viraux, tu sais. Et j'ai eu vraiment beaucoup plus de personnes de l'immigration, des personnes de différentes communautés qui se sont mis à me suivre à ce moment-là en mode, je pense, « Ah, fille, OK, elle not bad. » C'est comme, on n'est pas... C'est pas une autre personne qui pourrait être raciste ou qui pourrait nous surprendre avec du racisme. Cette personne-là, clairement, lutte de notre bord. Puis ça, puis depuis, je le vois que, ne serait-ce que dans mes... relations sur les réseaux sociaux ou dans nos spectacles aussi. Dans nos spectacles, je pense que c'est en train de se diversifier. Puis, puis que je pense aussi que ces lieux-là de rencontre, si tu s'en vas voir le spectacle d'un humoriste puis que tout le monde est blanc, bien, tu oublies un peu que d'autres personnes existent. Mais là, si tu s'en vas voir un show d'un humoriste puis, oh mon Dieu, c'est diversifié, ah, oh, c'est cool, il y a d'autres affaires qui se passent, bien, ça peut aussi aider à faire des
effet domino un peu.
Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment de comme le dire frontalement aussi, de pas avoir peur de perdre les privilèges de la blanchité aussi, là, de comme, tu sais, quand on le voit, par exemple, aux États-Unis, quand il y a des personnes blanches qui vont, mettons, ils mettent des autocollants de drapeaux du Mexique sur leur voiture pour faire diversifier ICE. Puis ça, c'est important, mais ça te met en danger, mais en même temps, est-ce que ça te met vraiment en danger ou ça te met juste dans la même position qu'une personne non blanche, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est aussi de pas avoir peur de ça, puis de... Je pense que quand tu t'exposes en mode « Hey, je suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, puis je veux combattre ça », ben clairement, ça aide à faire ces liens-là, puis je pense que c'est absolument nécessaire que le plus de monde le fait, parce que c'est aussi comme la suprématie blanche profite du silence. En fait, tous les systèmes d'oppression profitent du silence. Le patriarcat profite du silence des gars qui sont bien fins, mais qui n'osent pas dénoncer leurs amis, tu sais. Puis tu sais, je pense tout le temps aussi, je pense que ça aide d'être une femme, parce que je vois les systèmes d'oppression racistes de la même façon que je vois les systèmes d'oppression sexistes. Puis autant que je demande à des gars de faire des efforts, puis d'aller parler à leurs amis de gars, puis d'aller faire de l'éducation, que je sais que c'est le même rôle dont les gens, pas s'attendent de moi, mais qu'il faut que je fasse si je veux combattre aussi les systèmes d'oppression racistes, t'sais. Fait que je pense que ça aide beaucoup de vraiment de « OK, j'y vais, puis je mangerai la boîte comme tout le monde, mais au final, tu manges la même boîte que des personnes. » C'est là que tu réalises, moi, quand je parle pour l'immigration, je reçois plein d'insultes, mais je suis une femme blanche, je reçois pas le dixième des insultes.
Que ça, tu reçois pas retourne dans ton pays.
Ben, c'est ça, tu sais, comme... Non, je reçois des traites à la race. C'est ça qu'on dit maintenant.
C'est sérieux.
Ouais, ouais, vraiment beaucoup. Ben, c'est ça, ils s'attaquent à ta blanchité. Tu perds vraiment... T'es une traite, là, maintenant, là, quand tu dis ça. Moi, je l'assume, tu sais. Je suis comme, oh, ouais, je vais être une traite, là.
Tu sais, on dit qu'on parle à nos chambres d'écho, mais tu sais, mettons, moi, j'ai créé il y a quelques années le spectacle d'humour québécoise, qui est un show avec que... Je voulais vraiment faire un statement que des femmes et des personnes de la diversité de genre qui sont pas blanches, pour donner un espace à ces femmes-là qui, historiquement, en ont juste moins dans le milieu de l'humour. Puis oui, ça attire évidemment un public qui se sent représenté. Fait que j'ai jamais eu autant de personnes de la diversité culturelle que dans ces spectacles-là. Mais les personnes blanches sont les bienvenues, là, tu sais, comme vous pouvez venir, puis vous pouvez trouver votre compte. C'est quand même bien des jokes sur notre quotidien, puis sur notre vie. Mais c'est les gens excluent ça puis trouvent ça pas universel parce que, ben moi, mon quotidien, c'est ben mes parents tunisiens qui me disent des affaires. C'est pas... J'étais allée en camping avec ma famille gaspésienne, tu sais. mais on a, comme tu disais tantôt, plein de points en commun de toute façon. Fait que, tu sais, je parle à une chambre d'écho, oui. Je décide de faire des shows pour un public en particulier, oui. Mais moi, on n'a jamais fait des shows pour moi. Fait que pourquoi, moi, c'était pas de l'exclusion quand... Martin et Matt faisaient des faux sur sa blonde conne puis sa tondeuse. Puis là, moi, j'étais comme, « Ah, c'est mon humoriste préféré! Il me parle tellement! » Mais c'est pas du tout en tant que petite fille tunisienne. Ça n'a pas rapport. Pourquoi, là, moi, ce que je ferais, ça serait juste parler à ma chambre d'écho quand, historiquement, ben les personnes blanches, surtout les hommes blancs, si je parle du milieu de l'humour, ont que parlé à leur chambre d'écho, finalement. Mais leur chambre d'écho, c'est le neutre. Mais moi, c'est l'humour ethnique, l'humour féministe, l'humour, tu sais. Fait que je pense qu'il faut... Encore une fois, on est des artistes, fait qu'on va toujours dire que tout passe par l'art, mais je pense qu'en ne serait-ce qu'en mettant un pied dans un show québécoise, tu fais comme, ah, OK, on rit des mêmes affaires, on peut... Puis en même temps, ça me fait apprendre à connaître des nouvelles réalités, des nouvelles histoires, d'entendre quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre dans les médias mainstream, par exemple, fait que non, ça peut passer par ça aussi.
T'sais. J'adore que tu aies partagé ça, parce que je pense que c'est encore quelque chose qui est mal compris, de se dire les personnes blanches ont eu 1 milliard de représentations partout, tout le temps.
C'est ça.
Et encore aujourd'hui, partout, tout le temps. Ouais. Et de se dire que les personnes qui sont racisées, par exemple, elles ont dû se créer une fausse appartenance à une représentation. C'est le cas aussi pour les personnes de la communauté LGBTQ+. Oui, et donc, en fait, ça choque tout le monde quand dans un film, il y a un couple de lesbiennes, par exemple, et que les gens sont comme « Oh, OK, c'est bizarre si on n'en fait pas un sujet.
Ouais. »
Ben non, c'est juste que les personnes lesbiennes, elles, se sont tapées des films
des films hétéros pendant des années, exact.
Fait que là, c'est exactement la même chose. C'est intéressant que tu le dises parce que Je pense que c'est encore difficile pour des personnes blanches de se dire on peut faire l'effort de nous regarder un film où on n'a personne qui nous représente. Ouais. Alors, c'est rare, mais il y en a quelques-uns.
C'est vrai.
Certains films sur certaines...
On ne parlera pas de Heated Rivalry, tout le monde.
Ah oui, parlez-moi là-dessus. On pourrait faire une heure encore.
J'ai vu ta vidéo de 42
Oui, je sors la prochaine partie.
Alors, non, ce sera pour peut-être une autre...
un autre podcast.
Un autre podcast. mais ça, je pense que ça met bien la table pour, malheureusement, le dernier segment. C'est avec tristesse qu'on doit conclure. oui, parce que toute bonne chose a une fin, mais pas l'année 2026, parce qu'elle ne fait que commencer.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2026?
Oh mon Dieu, de la résistance.
Ouais.
Moi, je
la révolution.
Que... Ouais, la révolution. Moi, je souhaite que tout le monde qui sent l'anxiété globale se mette en marche. Je pense aussi que c'est la meilleure façon de combattre l'anxiété. C'est de sentir qu'on fait quelque chose.
Être dans l'action.
Être dans l'action. Fait qu'on dirait que j'ai goût de dire aux gens, résistez, soyez dans l'action. Faites des liens avec votre communauté. Peu importe la communauté, apprenez à connaître le nom de vos voisins, de savoir c'est qui vous entoure. C'est des gens qui ont des enfants, qui ont un diabétique, qu'il va falloir aider si jamais ça pète. Je pense que c'est...
Faites votre cours d'RCR.
Ouais,
apprenez à faire du pain.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis là, vraiment. Je suis moins là-dedans, peut-être, mais...
RCR, pain.
Ouais, comme...
Potager.
Potager. Ben oui, tu sais, je pense que... Fait que je pense se mettre dans l'action, résister, connaître ses amis. Je nous souhaite tout ça. Sortir de l'isolement, beaucoup. Puis faire des breaks de réseaux sociaux, tout le monde, toute la gang. Comme on est vraiment trop sur notre selle, c'est vraiment un problème. Faudrait... Couper, je souhaite à tout le monde de couper son temps d'écran de moitié.
On peut pas voir toutes des vidéos de Ice avant d'avoir pris son café le matin.
C'est horrible.
Ouais. Ouais, mais...
On est en mars quand ça sort, alors on sait pas qu'est-ce qui va s'être passé.
Il peut se passer 22 000 affaires.
Ouais, mon... ouais, ben c'est ça, j'aurais pas pu mieux dire. Là, vraiment, moi, c'est ma résolution de 2026, de plus être en communauté, de plus organiser des parties d'appartements, comme j'appelle, de plus, tu sais. Se rassembler, se réunir, apprendre à se connaître, comme tu dis, connaître son voisin, puis organiser secrètement la révolution.
Rien de moins.
Alors secrètement.
Secrètement, alors, c'est entre nous. Se passe à comme nous autres, reste à comme nous.
Et vous, où est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce que vous faites en 2026 prochain?
Ben moi, c'est Anarcoco sur toutes les plateformes, puis vraiment toutes les plateformes. Je suis sur Blue Sky, je suis sur Upscroll, je suis aussi hors de Meta, sinon je suis dans Meta. Sinon, mon site internet, c'est carrelaperriere.com ou anarcoco.com. J'ai tout acheté. fait qu'on peut s'abonner à mon infolettre. Puis aussi, d'ailleurs, ils vont être passés depuis, mais je vais en faire d'autres. Je fais des ateliers sur la résistance en ce moment, puis des ateliers causerie pour qu'on se parle de ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vraiment mon but, c'est vraiment de créer des liens. Fait qu'il va en avoir d'autres là, en 2026, mais on peut tout suivre ça. Sur mes réseaux sociaux, là, pas mal. Ou dans la rue, vous pouvez venir me dire allô dans la rue. Des fois, c'est bizarre, mais j'aime mieux que le monde me dise allô qu'ils viennent m'écrire sur Instagram.
Surtout s'ils sont en break de réseaux sociaux.
Oui, ouais, c'est mieux qu'ils viennent me parler. Ouais, mais pour vrai, si les gens me voient dans la rue et ont envie de me parler, je leur dis venez me parler, ça me fait toujours plaisir. Je suis un peu awkward dans la vie, mais ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'air comme vraiment chill, mais genre, je suis vraiment.
Pas du tout finalement. Genre,
mais j'ai une face bizarre dans la rue, soyez pas surpris, mais venez me parler pareil.
Yes,
c'est moins pire que tes messages. Parce que des fois, elle ne met pas d'émoji, puis là, je remets toute notre amitié en question, puis là, je suis comme, est-ce qu'elle est fâchée contre moi? mais non. Mais oui, même chose. Emna Achour sur les réseaux sociaux. Sinon, évidemment, écoutez notre podcast Farouche. C'est beaucoup par là qu'on a des conversations, des fois dures, mais toujours dans la bienveillance et dans l'humour. on fait des spectacles aussi, des spectacles d'humour politique. Oh oui, on plug tout. On fait des spectacles politiques. Moi, je prépare la deuxième édition de mon festival Hystérire, qui a aussi, encore une fois, que des femmes et des personnes à diversité de genre. Festival de 3 jours qui a eu un grand succès l'année dernière. Je compte bien le reproduire cet automne, si Dieu le veut.
Yes, les liens vont se trouver dans la description, bien sûr. Donc, Amélie, c'est fini. Encore. À chaque fois que ça finit, on se dit « Ah, c'est fini ». Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci pour l'invitation.
Bye tout le monde, à la prochaine.
Bye.